Nous arrivons à notre dernière tranche et maintenant nous nous approchons de ta parole. Veuille toi-même nous édifier par ces anciens mots tellement précieux pour nous. Fais-nous connaître l'auteur de ces paroles. Fais-nous connaître Jésus-Christ plus proche encore. Seigneur, quand il y a des décisions à prendre ici dans l'Assemblée, peut-être quelqu'un ne comprend pas encore le salut, mais c'est le soir où il faut faire le rendez-vous. Peut-être une décision pour le baptême, pour devenir membre, pour un ministère quelconque, pour une décision importante, Seigneur, devant toi. Touche nos cœurs. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Et comme passage texte, passage thème, allons voir dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Éphésiens 2, 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que vous avez vu le fil conducteur? Est-ce que vous voyez que presque toutes les phrases ont affaire à ce bâtiment que nous formons? Nous sommes un temple de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu. Nous aimons chanter ce cantique-là à Anjou, une maison pour l'Esprit de Dieu. Regardez le fil conducteur. Vous avez été édifiés sur le fondement. Christ est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné. Les corps de métier. Dans une maison qui se bâtit bien, chacun à sa place au bon moment, les contrats doivent se prendre d'avance, et puis quand c'est le moment, alors ça va vite. Puis quand c'est le temps de mettre le plâtre, alors tout va bien, et puis finalement la maison est prête, parce que tout a bien été coordonné. Et ça s'élève pour être quoi? Pas une maison, mais un temple. Nous n'appelons pas nos maisons d'adoration des temples, mais c'est un temple, pas les briques. Ce n'est pas la maison. Les églises catholiques mettaient Domus Dei en dessus de leur bâtiment, mais ce n'est pas la maison de Dieu. C'est ici, c'est dans les cœurs, c'est nous tous, ensemble. Et nous nous élevons nous-mêmes, comme il faisait à l'église évangélique d'Éphèse, ben, l'église évangélique de Rosemont et d'Anjou, nous nous élevons pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il y a un fil conducteur dans ces versets-là. Vous avez été édifiés. Paul écrit ceci aux chrétiens d'Éphèse. C'est une église. Et ces chrétiens éparses sont ensemble dans un solide assemblage qu'on peut comparer à une maison. Et dans l'Épître, Paul approfondit la doctrine de l'église et dans le contexte immédiat, au verset 15, un seul homme nouveau. Et Paul voit un building nouveau qui comprend les croyants d'arrière-plan juifs et païens. Et il y a aussi le plus grand contexte de l'Église comme vraiment la réponse de Dieu au-dessus de toute autre instance. Il a créé les cieux et la terre, il a créé le domaine végétal, animal, les hommes, les femmes. Mais quand il en est venu à bâtir sa construction de l'Église, là nous parlons du chef-d'œuvre de Dieu. Et juste avant de laisser cette idée de chef-d'œuvre, regardons le verset qui est suggéré ici. S'il vous plaît, Éphésiens 3, 10 et 11. Et quand nous allons terminer la lecture d'Éphésiens 3, 10 et 11, je vais vous demander de regarder en haut et de sourire. Vous allez comprendre, j'espère. Éphésiens chapitre 3, 10 et 11, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, on peut sourire et dire « Salut, Salut les autorités, principautés, dans les lieux célestes. Nous sommes le showroom. C'est nous que Dieu nous présente à toutes ces entités, bons anges, mauvais anges. Il dit, regardez l'Église. Mon Fils est mort pour elle. Et mon Saint-Esprit les travaille. Oui, il y a des scandales. Oui, il y a des décisions mauvaises. Oui, il y a des péchés. Mais le Seigneur les travaille petit à petit. Il les sanctifie. Ceux qui quittent, qui doivent quitter, ça nous attriste. On peut penser à bien des gens qu'on a connus dans notre parcours, n'est-ce pas? Et depuis 70 ans, combien qu'on serait si tous ceux qui étaient commencés avaient continué? Oui, c'est triste. Mais le Seigneur travaille parmi nous et le Saint-Esprit travaille en nous ce soir. Et Dieu nous montre à ses anges, à ses entités spirituelles, comme étant le chef-d'œuvre de son travail par son Fils. Nous avons été édifiés sur quoi? Quel est le fondement? Ce sont les apôtres et les prophètes. Quand j'ai vu cette expression pour la première fois, je me suis dit, ah ok, les apôtres du Nouveau Testament puis les prophètes de l'Ancien? Non, parce que selon le grec, c'est le fondement des apôtres et prophètes. Il y a un seul article devant les deux. Ce sont les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. L'ancienne a été, et j'hésite à employer le mot, mais je vais l'employer, remplacée. Il y en a qui disent, ah non, c'est pas bon la théologie du remplacement. Mais la Nouvelle Alliance abroge l'ancienne, en même temps l'accomplit. Alors, tous les prophètes de l'Ancien, toute la loi de l'Ancien est accomplie en Jésus-Christ et la nouvelle réalité qu'il amène, son nouveau peuple. Nous sommes édifiés sur l'enseignement du Nouveau Testament, mais nous valorisons l'enseignement de l'Ancien aussi à valeur d'exemple, à valeur de modèle, à valeur d'avertissement, comme Caleb a lu tantôt. Et il y a le fondement de cet enseignement-là que nous avons dans les livres du Nouveau Testament. Il y a le fondement de Jésus-Christ lui-même. Là, c'est vraiment la pierre angulaire qui donne l'angle, qui donne le 90 degrés qu'il faut pour toute la maison jusqu'en haut. Il est la pierre angulaire dans ce sens-là. Il donne l'angle, mais il est aussi la pierre angulaire qu'il est le fondement sur quoi tout repose. Et comme Caleb l'a dit, il a été frappé. La pierre rejetée par les hommes, mais précieuse devant Dieu. Et Jésus lui-même a dit, je bâtirai quoi? Je bâtirai mon Église. Il l'a bâtie encore ce soir, avec des pierres vivantes. Et il est venu accomplir la loi et les prophètes de l'ancienne alliance. Il est la pierre angulaire rejetée, crucifiée, mais ressuscitée, montée au ciel, assis à la droite du Père. Et il est en train de dérouler les sceaux de l'histoire jusqu'à son glorieux retour. C'est en lui que tout l'édifice est construit. Et Paul souligne que l'Église est un édifice en Christ, en Christo. Paul exprime l'idée d'être en Christ 165 fois. C'est vraiment individuellement qu'on est en Christ et corporativement que nous sommes en Christ. C'est notre nouvelle entité. Identité. Nous sommes en Christ. Et c'est celle aussi de l'Église. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Alors tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais elle est dans le passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout l'édifice, chaque croyant de l'Église universelle est positionnellement en lui. Nous sommes changés de place, bibliquement, théologiquement, positionnellement. Nous sommes en Christ. Nous ne voudrions pas l'attrister. Et ce bâtiment s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, c'est toujours l'idée d'être dans le Seigneur, en lui. Mais Paul ajoute cette dimension de l'ancienne alliance, que nous sommes un temple saint. Le temple de Salomon. Là où Dieu avait décidé d'habiter, même si un temple ne peut pas contenir le Dieu de l'univers. Mais nous sommes ce temple en étant l'habitation du Saint-Esprit, individuellement et corporativement. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En conclusion, Paul affirme que nous sommes une habitation pour Dieu lui-même. « Je vois Jésus en toi », dit un de nos cantiques. Merveilleux. Dieu est dans la bâtisse. Il est là. Maintenant, lequel de ces traits caractérise Rosemont? Ben, j'ai choisi bien coordonné pour cette période-là. Il y a une coordination nouvelle. Dieu donne des dons pour perfectionner les choses, approfondir les choses, rendre mature, aller plus loin. Et ce trait d'Éphésiens 2, 20 à 22, qui est bien coordonné, comment est-ce qu'on va le voir dans la réalité à travers ces années-là? Et j'ai choisi 7 points. Pour le premier, c'est la priorité de l'enseignement. Oui, c'était déjà une priorité avant. On avait une école du dimanche depuis toujours. Je ne sais pas si on a manqué des années où il n'y avait pas d'école du dimanche, ni pour les adultes, ni pour les enfants. En tant que Rosemont, on avait cela. Écoutez bien, on joue. Beaucoup d'églises ont délaissé l'école du dimanche. Mais Rosemont garde, élabore et perfectionne les cours. Je pense que Richard et Mélodie et le conseil ont fait un effort pour codifier beaucoup de ces cours et on va venir cogner à votre porte quand on va commencer des cours. Mélodie, est-ce que celui sur Philippiens est encore dans les archives, s'il vous plaît? En tous les cas, c'est des cours pas seulement formels pendant la période de l'école du dimanche, mais il y a aussi pendant la période du culte avec Awana, et puis il y a de l'enseignement partout dans les églises de quartier, dans les différents groupes. L'enseignement, c'est une priorité, et c'est ce qui fait la longévité de cette église. Dieu a fermé son église par l'enseignement. Acte 14, 22. Il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Donc, il y a un enseignement qui est nécessaire pour le chrétien. Et si vous n'assistez pas à l'école du dimanche à Rosemont, là, faites l'effort. Levez-vous une heure plus tard. Couchez-vous une heure plus tôt et levez-vous une heure plus tôt. Fermez le petit écran et le grand. Deuxième trait de ces années d'affermissement, je parle de la fermeté doctrinale face à des tendances modernes, même parmi notre association, parmi nos églises évangéliques. Il y a une sorte d'acclimatisation aux tendances qui proviennent d'autres dénominations ou parfois carrément du monde. Et il faut faire attention en tout temps, ne pas être désagréable comme une prune et de l'acide, mais il faut avoir quand même une fermeté et garder des standards élevés. Et Richard a été personnellement un combattant pour la saine doctrine face à des tendances comme le baptême qu'on pouvait peut-être accepter, l'aspersion, ou bien dans des questions du rôle, je vois que c'est pas ici, mais en tous les cas, parlons du rôle des femmes. Donc, la pagination est toute chambranlante quand on la redonne. C'est peut-être la faute. Non. C'est ma faute. Richard a été vraiment ferme et ça lui a coûté. Écoutez, c'est un homme patient. Il est resté patient dans les différents comités. Mais il y avait des tendances, même dans notre association, et c'est un danger. Chère sœur, vous nous êtes précieuse, mais il y a un mouvement qu'on appelle le féminisme dans ce monde, et il a grandi, puis là, il a atteint les milieux évangéliques. Et dans notre fellowship, dans l'Est du Canada, il y a des femmes pasteurs. Pour nous, ça semble impossible. Mais c'est par petits degrés. C'est la fameuse grenouille dans de l'eau chaude puis ensuite bouillante. Si on ne réagit pas bien, alors c'est pas long. La tendance est là. Et donc, on a été dans des débats. Richard a pris la première ligne dans les comités, que ce soit à Saint-Bec, dans l'association. Et je pense que ça fait aussi, ça déteint sur la fermeté de l'Église et la longévité de l'Église. Il y a d'autres sujets, que ça soit la discipline, l'Église, la gouvernance, notre frère et le conseil ont été fermes, et je pense que ça parle de cette bonne coordination. Troisièmement, on est dans la saine doctrine. Alors, Rosemont a été avec d'autres dans les premières lignes pour promouvoir ce qu'on peut appeler la théologie de la Nouvelle Alliance. Et cette théologie-là est mitoyenne entre entre la théologie dispensationaliste et la théologie de l'Alliance réformée. Et emprunte aux deux autres théologies certains aspects, mais a aussi une spécificité qui parle de la priorité du Nouveau Testament sur l'Ancien. On ne fera pas plus de théologie pour ce soir, mais ces deux autres théologies ont une position, et la théologie de la Nouvelle Alliance, à mon avis, à notre avis, est plus saine, christocentrique et équilibrée. Quatrièmement, il y a eu bien sûr un accent continuel sur l'évangélisation. On comprend l'importance de la première prédication de William Henry Frey dans Romains 1, 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Et puis, il y a eu les cours d'évangélisation explosive et qui ont été refaits, retravaillés et remis en vigueur. Récemment, il y a eu un regain de vie par EE qui faisait pour l'instant seulement l'Évangile sur le bout des doigts. Mais récemment, et l'année passée, on a eu pour la première fois depuis bien des années une clinique pour former des formateurs. Et donc, on encourage ce mouvement-là afin que l'évangélisation soit toujours en première ligne par tous les leaders, que ce soit vraiment un mouvement d'Église, mais dirigé par les leaders. Donc, il y a eu vos sorties dans le métro. J'ai été avec Agaï au métro Joliette. Les visites, le suivi, le discipulat, l'évangélisation par les classes, c'était l'anglais, le français, c'était l'espagnol. Qu'est-ce que vous enseignez? C'était l'espagnol? Voilà. Alors, des moyens d'évangéliser qui sont tout à fait légitimes et puis, bien sûr, votre accent sur le comptoir alimentaire. Ainsi, on peut faire connaître et publier la bonne nouvelle. Et puis, on parle maintenant de spécifiquement le comptoir alimentaire. Il y a les cours de langue, les camps de jour. Vous avez eu des camps de jour pendant tout l'été? C'est incroyable. Combien d'années est-ce que Wendy, Mireia, Paula, c'est ça? Et encore d'autres. Combien d'années? Je pense que c'était plusieurs années, en tous les cas, que vous avez fait ça. C'est à remettre à l'étude, puis ce sont des bonnes actions d'évangélisation. Et Dieu a fermé l'Église et son témoignage, comme l'a dit Jésus dans Matthieu 5, 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, probablement, il y a des gens ici qui ont servi dans le comptoir alimentaire. Il est possible qu'il y ait même une personne ici de Rosemont qui est venue au Seigneur par le comptoir alimentaire. Il y en a des conversions à cause de cet impact social. Il y a eu des années où notre fellowship et notre association et notre Église pensaient « Oh, on ne change pas les sièges sur le Titanic. » Le Titanic va couler. Alors, c'est pas la peine de faire des œuvres sociales. Il y avait des années que c'était cette tendance-là, et on prêchait juste l'Évangile. Mais Jésus n'a-t-il pas fait la prédication et qu'il a fait du bien aux pauvres, aux malades, aux morts? Il a fait des bonnes œuvres et il a prêché. Et Marc, Matthieu disent qu'il a fait des bonnes œuvres et qu'il a apporté la parole. Alors nous nous mettons plus au climat que c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Les œuvres sociales et la bonne prédication. C'est un des impacts à Rosemont. Sixièmement, il y a cette persévérance et la foi pour un nouveau bâtiment. Ça fait des années maintenant. On en parle cette année, là. Mais là, au moins, c'est presque clenché. Nous avons cette bonne nouvelle qu'il y a des bonnes rénovations qui ont été faites là-dedans. J'ai demandé, est-ce qu'il y aura une bibliothèque? Oui, on a rénové une des classes ou peut-être une toilette ou je ne sais pas, ou un bâtiment, une chambre, pour faire une bibliothèque. Et le bâtiment va bon train. Il faut prier que les acheteurs pour le coin de Saint-Joseph-Saint-Michel puissent avoir ses finances en ordre. Et j'aimerais faire même une prière pour cela un instant maintenant. Notre Dieu, notre Père, s'il te plaît, dirige toutes choses, que nous ayons la foi que tu vas pourvoir. Oui, Seigneur, afin de ne pas avoir cette distraction d'attendre et même de payer des intérêts en attendant. S'il te plaît, que Rosemont puisse voir ta bonne main par ta main miraculeuse. Ce 13e miracle, si on peut dire entre guillemets, pour que l'acheteur achète, clenche le contrat. Au nom de Jésus, amen. Donc, c'est un des éléments d'affermissement du Seigneur pour les leaders et pour la congrégation. Et donc, depuis 70 ans, Rosemont a vécu plusieurs déménagements, que ça soit de Thistle Hall à Bethany, de Bethany à la synagogue sur Saint-Urbain, de Saint-Urbain à l'école Stella Maris, de l'école Stella Maris, j'oublie le numéro que c'était sur boulevard Rosemont, mais en tous les cas au coin de la 27, et puis ensuite au coin de Saint-Joseph-Saint-Michel. Et maintenant, 40e et belle chasse. Prions, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, oui, c'est plus court et c'est bien. On est fatigué, on a eu du bon temps aujourd'hui. Et Seigneur, ta parole a été bonne aussi pour nous. Tu nous as édifiés. Dans tous les sens du mot, tu nous as édifiés en Église à Rosemont depuis 70 ans. Pour nous qui sommes d'Anjou, tu nous as édifiés depuis près de 10 ans maintenant. Dans les deux églises, tu nous as donné des encouragements miraculeux, nous le savons. Tu guides nos pas. Tu as été bon pour nous. Et c'est parce que Jésus-Christ est au centre. C'est toi que nous élevons, Seigneur. Pas des hommes. C'est toi qui es au centre de tout cela. Tu nous as guidés. Tu nous as sauvés. Tu nous as mis ensemble. Tu as fait la croissance. C'est toi qui as donné la croissance. Qui est Apollos? Qui est Paul? C'est Dieu qui donne la croissance. Merci, Seigneur. Béni sois-tu pour cette Église. Continue avec elle dans les prochains mois qui seront vraiment un défi par la foi. Et nous te remercions pour ces instants précieux passés dans ta présence et dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.